Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
L'actualité ukrainienne a remis la Crimée sur le devant de la scène. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous explique ce qu'il faut savoir de cette péninsule. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. On parle en effet beaucoup de la Crimée, certains citent même la guerre de Crimée au milieu du 19e siècle, vous savez. Mais je vous avoue que je n'ai pas trouvé jusqu'ici d'explication ou de narration très satisfaisante. Alors, je vais m'y coller moi-même et je vais vous la raconter, moi, cette guerre. Et pour évoquer la péninsule et son histoire, j'ai demandé à Vladimir Fedorovski d'être des nôtres.
Et à la fin de l'émission, vous répondrez à une question posée via Facebook par Laurent.
Laurent voudrait savoir comment on datait les événements avant la naissance de Jésus. Pour le moment, je vous emmène en 1853 Anno Domini pour assister depuis les premières loges à la guerre de Crimée.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On parle beaucoup de la Crimée et très peu, à mon avis, pas assez, de la guerre de Crimée qui a opposé la Russie à toute une coalition, on est au milieu du 19e siècle, coalition formée par l'Empire ottoman, par le Royaume-Uni, le Royaume de Sardaigne et, bien entendu, j'ai envie de dire au centre de tout ça, la France. Une guerre qui, par ailleurs, a sans doute été peut-être considérée en tout cas comme la première guerre industrielle, comme le premier conflit moderne de l'histoire. Cette guerre qui va faire quand même beaucoup de victimes, hein. Plus d'un demi-million d'hommes sont morts sur les champs de bataille de Crimée. Cette guerre avait éclaté pour des motifs proprement incroyables. Alors, si vous voulez qu'on comprenne ce qui s'est passé, il faut remonter, si vous voulez, un siècle en arrière, et même déjà au XVIIe siècle, à l'époque où l'Empire ottoman est sur le déclin, on voit une très grande convoitise du côté de la Russie pour la Crimée. En effet, il faut vous dire que l'échec du second siège de Vienne, vous savez que les Ottomans avaient mis le siège devant Vienne en 1683, le traité qui s'en est suivi, qui est totalement défavorable aux Ottomans, et puis un autre traité, beaucoup plus tard au XVIIIe siècle, vont refléter l'affaiblissement de l'Empire ottoman et marquer une véritable crise. La campagne d'Égypte entreprise par Napoléon Bonaparte avec l'invasion par les troupes du gouverneur de l'Égypte Mehmet Ali de la Syrie secoue brutalement les fondements de cet État ottoman qui a de plus en plus de mal à résister, et ces réformes, les réformes que va lancer l'Empire pour essayer de se survivre en quelque sorte, ne vont pas suffire. D'ailleurs, la guerre de Crimée va révéler la faiblesse structurelle et la faiblesse financière de l'Empire ottoman. Pendant ce temps-là, la Russie, qui est devenue un empire en 1721, cette Russie est en pleine expansion, elle est en train de repousser partout ses frontières, et évidemment, les deux pays, la Turquie ottomane et la Russie impériale, vont s'affronter sur un certain nombre de territoires, et notamment en Crimée. Il faut vous dire que la Russie n'a pas bonne presse à l'époque en Europe. Voilà ce qu'écrivait par exemple Michelet en 1851 à propos de la Russie. Il disait « C'est un géant froid famélique dont la gueule s'entrebâille toujours vers le riche Occident. La Russie, c'est le choléra, c'est l'empire du mensonge. » Vous vous rendez compte? Cette russophobie, elle était partagée par pas mal d'Européens, y compris au Royaume-Uni, où la presse avait tendance à s'inquiéter beaucoup des différentes attaques russes sur les frontières et notamment en direction des Indes. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque, l'Empire britannique est en train de s'étendre de son côté. Alors en France, le 2 décembre 1851, c'est le coup d'État de celui qui va devenir Napoléon III, bien entendu. Napoléon III a toujours à l'esprit le souvenir des guerres qui ont été menées par son oncle Napoléon Ier, notamment contre la Russie, bien entendu. Mais le but essentiel de Napoléon III à ce moment-là, au tout début de son règne, c'est à toute force de se rapprocher du Royaume-Uni. Donc, si vous voulez, d'un côté, le souvenir de la retraite de Russie, donc la Russie est assez mal vue, et d'un autre côté, l'envie de partager des causes communes avec les Anglais. Il se trouve que le prétexte idéal pour mettre en œuvre cette politique et ses ambitions diplomatiques, ça va être une affaire concernant les lieux saints en Palestine, figurez-vous. La Palestine, à cette époque, fait évidemment partie de l'Empire ottoman. Depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la Russie, assume de son côté un rôle qui se veut un rôle de protecteur des chrétiens de Palestine. Seulement, le développement des transports modernes a complètement multiplié le nombre des pèlerins en Terre Sainte et les deux empires vont bientôt s'offrir une guerre diplomatique pour savoir qui, des catholiques, qui eux sont protégés par la France, ou des orthodoxes, qui eux sont protégés par la Russie, vont pouvoir placer leurs moines sur les lieux les plus saints de la chrétienté. Donc, un vrai conflit, une vraie concurrence entre Napoléon III et le tsar Nicolas Ier. Cette querelle politico-religieuse n'a pas de quoi justifier un conflit armé, il faut le dire, mais elle va servir de prétexte pour une autre rivalité. Il faut savoir que l'Empire russe va envahir la Moldavie et la Valachie. Ça, c'est une véritable déclaration de guerre, en quelque sorte. Le tsar se présente officiellement comme le grand défenseur des Slaves et il a l'intention de réunir tous les Slaves possibles sous sa domination. Dans les faits, la Russie envahit des principautés vassales de l'Empire ottoman. Cet Empire ottoman, il n'a pas le choix. Si les Turcs ne veulent pas définitivement perdre la face, il leur faut, face à ces agressions en Moldavie, en Valachie, etc., ils sont obligés de déclarer la guerre à l'Empire russe. Cette guerre, elle est déclarée le 4 octobre 1853. Or, Napoléon III en France et la reine Victoria en Angleterre vont faire cause commune avec le sultan de Constantinople, Abdulmejid Ier. C'est la première fois, entre parenthèses, depuis Aliénor d'Aquitaine, vous imaginez, c'est la première fois que les Anglais et les Français vont s'entendre sur une vraie question diplomatique et vont s'apprêter à combattre ensemble. En effet, après un ultimatum qui réclame l'évacuation des territoires occupés, le Royaume-Uni et la France déclare la guerre à la Russie. On est là le 27 mars 1854 et vous avez bien compris que pour l'instant, il n'est pas encore question de la Crimée.
Tchaïkovski sur Europe 1, un extrait du concerto pour violon en ré majeur. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la Crimée.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire de la Crimée.
Alors bon, la guerre est déclarée, les chefs d'État français et anglais sont tout à fait d'accord pour aller se battre pour soutenir l'Empire ottoman contre les Russes, mais la question qui se pose c'est de savoir où se battre, parce qu'on est en guerre mais on ne sait pas où engager les hostilités. Or, en mars 1854, les Turcs et les Russes sont déjà en train de se battre en Orient sur les montagnes du Caucase et en Occident dans l'actuelle Roumanie. Sur le premier front, la situation est stable, mais sur le second, les Turcs ont réussi déjà à repousser l'armée du tsar. Alors, dans l'incertitude, les alliés rassemblent une armée sous les ordres de Saint-Arnaud et de Lord Raglan, une armée qui se réunit à Gallipoli sur la rive européenne des Dardanelles, qui reste cette armée immobilisée jusqu'à la fin de l'été d'ailleurs. Et le 29 avril, les Anglais et les Français débarquent à Varna, en Bulgarie, afin de contraindre les Russes à un repli stratégique, les contraindre à évacuer les provinces roumaines. En effet, les Russes vont abandonner le siège de Silistra en juin. Ils évacuent les principautés qui, neutralisées, sont confiées à la garde de l'Autriche. Donc la Russie recule, si vous voulez. Mais il ne faudrait pas croire que tout soit rose du côté des alliés, qui d'abord sont décimés par le choléra, il faut le dire, et qui se trouvent en difficulté du fait de territoires qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider de porter leurs efforts sur une autre forteresse russe, la puissante Sébastopol. Ah, alors là, cette fois, on se trouve bien en Crimée. À la mi-septembre, 59 000 hommes, dont les trois quarts sont des Français, vont débarquer à Eupatoria, sur la côte ouest de la péninsule. Le prince Menchikov, qui se trouve être le commandant en chef des armées russes, est à Sébastopol. Il est aussitôt informé, bien entendu. Il rassemble le maximum de ses troupes qui se trouvaient un petit peu éparpillées dans cette péninsule de Crimée. Et il décide de livrer bataille sur un fleuve. Ce fleuve s'appelle l'Alma. C'est là que ses soldats se trouveront en meilleure situation et ils sont en surplomb des forces adverses. Voilà ce que nous disent Camille Félix et Michel Rousset dans leur histoire de la guerre de Crimée. L'Alma, donc ce fleuve, l'Alma bordait comme un fossé le terrain dominant occupé par les Russes. Il coulait de l'est à l'ouest dans un lit encaissé, peu large, ombragé d'arbres et d'arbustes, bordé de vignes, de jardins, de vergers, de maisons tatars. Dès le 16 septembre, les Français sont prêts, mais pas leurs alliés. La bataille n'aura lieu que le 20 septembre et là, en 90 minutes, les alliés parviennent à mettre l'armée russe en déroute. La légion étrangère et les autres troupes françaises montent à l'assaut des Russes, tandis que un régiment de zouaves mené par Bosquet parvient à les contourner, à escalader les falaises et à s'emparer des canons russes. Ça, c'est un véritable coup d'éclat des zouaves et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait sous le pont de l'Alma une statue de zouave encore aujourd'hui. L'avancée des Français, la surestimation du nombre des Britanniques, tout ça va faire peur aux Russes qui finissent par abandonner le terrain et par conséquent, ils perdent la bataille. Ils ouvrent aux Alliés la route de Sébastopol. Seulement, Sébastopol ne va pas se rendre comme ça. Il va falloir quand même un an de siège. C'est à la suite de cette victoire de l'Alma que les Français et les Anglais viennent mettre le siège sous les murs de cette très puissante forteresse russe de Sébastopol. Il va falloir beaucoup de monde, hein, 185 000 assiégeants emmenés par le général Canrobert qui vont affronter les rigueurs de l'hiver et les tentatives de sortie du colonel russe dirigeant la place. Alors, évidemment, les alliés ne sont pas sur leur territoire. Ils s'exagèrent sans doute l'importance des défenses du nord de la place et ils vont établir sur le plateau de Chersonèse un vaste camp retranché. On est donc au sud de la ville, si vous voulez. Les coalisés organisent une ligne de blocus défensif avec des tranchées, des abris, toutes sortes de positions pour les tirs d'artillerie. Et le maréchal Canrobert, qui a à l'époque remplacé Saint-Arnaud qui était mort du choléra, le maréchal Canrobert perd beaucoup de temps dans toutes ses opérations, dans tous ses préparatifs. Ça va permettre aux Russes d'organiser leur défense. Menchikov tente en vain de rompre les lignes alliées, d'abord lors de la bataille de Balaklava, on est là le 25 octobre, et puis à Inkerman le 5 novembre. Cela dit, ils ne parviennent pas à ralentir les travaux de siège qui vont se durer pendant tout l'hiver de 1854-1855. Alors, il faudrait revenir sur tous les souvenirs tragiques de ce long siège de la forteresse de Sébastopol avec ses soldats malades de la dysenterie, épidémie de scorbut, de choléra, etc. À la fin du siège, la faim et le froid auront causé plus de la moitié des 110 000 pertes subies par les armées alliées. C'est d'ailleurs pendant ce siège qu'une jeune Britannique de 34 ans, la fameuse Florence Nightingale, qui avait été complètement sidérée, choquée par l'abandon des malades, va organiser des hôpitaux de campagne. Et vous, que vous connaissez bien sûr l'extraordinaire postérité de ces initiatives de Nightingale. On peut dire qu'elle va faire la une de tous les journaux anglais et même européens. Ça va la rendre éternellement célèbre. Alors, malgré la faim, le froid, les maladies, le siège se poursuit et en janvier 1855, les alliés reçoivent le soutien du royaume de Piémont-Sardaigne, donc 15 000 hommes envoyés par Cavour. Ça aura des conséquences, ça, plus tard. Nicolas Ier ordonne de son côté une nouvelle offensive, cette fois contre Eupatoria. Le général Kroulev cherche à prendre par surprise l'armée ottomane, mais les alliés des Turcs ont déjà prévu les mouvements russes et les troupes franco-britanniques vont attaquer l'armée de ce général qui perd d'un seul coup 1500 soldats. Le tsar est surpris par cette contre-offensive, il est affaibli, disons-le, il est quand même assez ébranlé par tout ça, il va mourir d'une pneumonie le 2 mars, le tsar Nicolas Ier, ce qui ne veut pas dire que la guerre s'arrête. C'est pas parce que le tsar meurt qu'on arrête la guerre. Son successeur, le nouveau tsar Alexandre II, n'est pas du tout prêt à reconnaître la défaite de la Russie.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, retour avec vous Franck Ferrand à l'histoire de la Crimée.
Le siège de Sébastopol se poursuit. Il faut imaginer ce que peuvent être les bombardements des défenses russes par les alliés. Durant 10 jours, on tire plus de 160 000 obus sur la ville qui vont tuer et blesser près de 5 000 défenseurs. Et de leur côté, bien sûr, les Russes ne sont pas sans répliquer. Ils envoient plus de 80 000 projectiles. C'est une guerre d'une grande violence. Et je vous disais tout à l'heure, c'est l'amorce de ce qu'on va connaître par la suite. C'est la première vraie grande guerre moderne, évidemment. Alors, le problème chez les alliés, c'est qu'il y a un désaccord sur la stratégie à suivre. Quand Robert, d'un côté, propose d'occuper toute la Crimée afin d'isoler complètement les assiégés, alors que Lord Raglan, lui, considère que la chute de la ville est imminente et que cette offensive laisserait trop peu de troupes pour s'opposer à une éventuelle sortie des Russes. Si jamais Sébastopol doit se rendre, il faut qu'il y ait du monde pour accueillir, si je puis dire, le dernier assaut des Russes. Quand Robert est tellement vexé par les désaveux successifs qu'il doit essuyer, qu'il finit par abandonner le commandement des troupes françaises à Aimable Pélissier, qui, je vous prie le croire, n'a d'aimable que le nom, et qui est bel et bien résolu pour sa part à concentrer tous ses efforts sur la prise de Sébastopol. Une offensive est planifiée contre les positions russes du sud-est. Les Français, les Anglais n'en connaissent pas moins des difficultés terribles au moment de ces combats, mais lorsque la dernière contre-attaque russe est repoussée le matin du 8 juin, alors là, les alliés peuvent se dire qu'ils sont en bonne situation et qu'ils contrôlent les positions principales, dont la fameuse tour de Malakoff. La prise de Malakoff et du Grand Redan ne s'annonce pourtant pas sous les meilleurs auspices pour les troupes de la coalition. Le 18 juin, alors qu'ils doivent progresser sur plusieurs centaines de mètres à découvert dans un terrain toujours très difficile, les vagues de fantassins français et britanniques sont littéralement décimées par les Russes qui les attendaient au tournant, si je puis dire. L'assaut tourne rapidement au désastre, les pertes vont être considérables, 1 000 000 d'hommes côté britannique et près de 6 000 chez les Français. Seulement, l'heure de la revanche ne va pas tarder à sonner. En effet, le tsar Alexandre III sait très bien que Sébastopol ne pourra pas tenir longtemps. Il ordonne une ultime offensive pour essayer de rompre, de briser cet encerclement. Et en août 1855, on est donc là presque un an après le début du siège, l'armée russe fait son ultime tentative de percer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas un grand succès. Alain Gutmann nous dit « Pour le commandement allié, le succès obtenu suffit. Les Russes ont perdu près de 8 000 hommes tués, blessés ou prisonniers contre 1 500 chez les Français et 250 chez les Piémontais, dont seulement 25 tués. » Et il ajoute « L'effet moral ne peut être que terrible. Alors que Sébastopol est à l'agonie, les Russes viennent d'échouer pour la troisième fois dans leur ambition de rejeter les alliés à la mer. » Alors. Ce succès va redonner confiance aux alliés et c'est le général de MacMahon qui, le 8 septembre 55, va s'emparer, avec ses zouaves, de la fameuse tour Malakoff. Ça y est, on y arrive, cette tour qui surplombe la citadelle de Sébastopol, qui est considérée comme indispensable à la prise de la ville. Pélissier, qui craignait le pire, va lui demander à plusieurs reprises de renoncer. Seulement, vous connaissez la célèbre formule de MacMahon, « J'y suis ». J'y reste. Une fois cette tour Malakoff tombée aux mains des alliés, les Russes se retirent de Sébastopol après avoir quand même incendié la ville. Et là, la lutte, évidemment, va cesser presque aussitôt après l'évacuation des Russes. Le cessez-le-feu, cependant, n'aura lieu que le 30 mars 1856 avec la signature du traité de Paris. Alors, plusieurs conséquences, bien entendu, à ce traité de Paris qui rassemble les principaux belligérants de cette guerre de Crimée. Le 30 mars 1856, le traité de Paris. On commence par entériner la défaite de la Russie, évidemment. Ça consacre ça l'indépendance de l'Empire ottoman. La Russie renonce à ses prétentions sur la Moldavie et la Bessarabie. Elle accepte la neutralité de la mer Noire, vous vous rendez compte. Et elle accorde la libre circulation des navires sur le Danube. Ça a dû beaucoup coûté aux diplomates russes, évidemment. Mais à partir de là, les conséquences sont multiples. L'influence française en Orient en sort grandie, bien entendu. La Russie est sans doute humiliée par le traité et en même temps, ça va avoir pour effet de développer ses relations à terme avec l'Angleterre, mais surtout avec la France. Nous allons en parler dans un instant avec Vladimir Fedorovski. Et puis, la dernière, la petite inattendue conséquence de tout cela, c'est que Cavour, le Premier ministre du roi de Piémont-Sardaigne, lorsqu'il avait envoyé ses 15 000 hommes au secours des Français, avait obtenu de Napoléon III la promesse qu'un jour, l'Empire français aiderait les Sardes et les Piémontais dans leur volonté d'unifier l'Italie. Finalement, grâce à sa modeste participation à la guerre de Crimée, le royaume de Sardaigne va changer de nom et un jour il deviendra le royaume d'Italie. Bonjour Vladimir Fedorovski, je suis heureux que vous soyez avec nous pour évoquer non seulement cette guerre de Crimée, mais d'une façon générale toute l'histoire de la Crimée, afin peut-être d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe là-bas en ce moment même.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire de la Crimée cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Vladimir Fedorovski, écrivain et ancien diplomate.
Vladimir Fedorovski, vous êtes vous-même d'origine ukrainienne. Il faut peut-être commencer par le commencement.
Bien sûr, j'assume complètement Taras Bulba, les steppes parfumées de l'Ukraine, Gogol.
Oui,
l'âme slave, l'affinité avec la Russie aussi, parce que j'ai une double appartenance. Ma mère était russe et mon père un vrai ukrainien.
Ce qu'on peut peut-être dire, avant de revenir bien sûr sur cette guerre de Crimée et d'en tirer quelques conclusions, ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'il y a une origine commune d'un point de vue historique et culturel entre ces deux pays en fait. L'antique Russie, c'est à Kiev que ça se passe.
L'antique Russie commence à Kiev, il y a les origines communes, il y a les affinités extraordinaires culturelles. Tchaïkovski, le grand Tchaïkovski, le compositeur le plus joué au monde, est d'origine ukrainienne, mais compositeur russe. S'il vous plaît, Gogol, que j'aime particulièrement, Taras Bulba, d'origine ukrainienne, Akhmatova, la plus grande poétesse de tous les temps en Russie, est d'origine ukrainienne. Tant d'affinités et tant de tristesse aujourd'hui, parce que quand même, les temps sont tristes, ce qu'il faut éviter, surtout les dérapages. Pas de guerre civile en Ukraine et pas de guerre mondiale à cause de l'Ukraine.
Alors on va y venir, évidemment. Avant cela, revenons, si vous le voulez bien, sur cette guerre de Crimée, sur ce traité de Paris. Alors, j'ai parlé il y a un instant des conséquences pour l'Italie, parce que ça, c'est la conséquence la plus inattendue. Ce rôle, certes minime, mais déterminant pour l'avenir du royaume de Sardaigne, ce rôle de Cavour et de ses troupes. Alors, ça, c'est un aspect, bien entendu. Le principal aspect, c'est la situation même de la Russie en Europe. Est-ce qu'on peut dire que la Russie est sortie humiliée du traité de Paris ?
Un vieux diplomate que j'étais, je peux vous dire que le traité de Paris a une sorte de particularité. Évidemment, c'est la défaite de la Russie dans la guerre de Crimée, mais quand même, la Russie a gardé la Crimée. Ça, c'est déjà confirmé. Et d'autre part, ça a eu des conséquences tout à fait inattendues pour la Russie. C'est le déclenchement des grandes réformes. Je considère comme le plus grand tsar de toutes les Russies, justement, le tsar qui a assisté justement à cet événement, à la guerre de Crimée, le tsar Alexandre II, c'est la fin du servage, c'est les grandes réformes d'Alexandre III qui auraient pu éviter s'il n'était pas tué au 8e attentat en 84. Je parle évidemment de 1984.
Oui, oui.
Il aurait été... Bien sûr, le plus grand tsar de toutes les époques. Hélas, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a un autre aspect pour la guerre. C'est l'aspect carrément pour le subconscient russe, j'ai failli dire le subconscient européen. C'est le grand Tolstoï. Tolstoï qui était, comme vous le savez bien, une sorte de chaman.
Les récits de Sébastopol.
Exactement. Vous les connaissez, les grands littéraires que vous êtes. Quand même, Tolstoï qui a écrit les récits de Sébastopol, qui était un chaman, puisqu'il avait ça transformé. Vous connaissez le récit du cheval. Il parlait comme un cheval. Cette fois-ci, il parle comme un simple soldat. Lisez les récits de Sébastopol. C'est l'un des plus grands livres qui existent sur la terre, sur la guerre. Le simple soldat qui était en Crimée. La Crimée de Sébastopol, la Crimée de Tolstoï, évidemment, est entré dans le subconscient russe. Et après, il y avait Tchekhov, Yalta et tant d'autres choses qui se sont passées là-bas.
Il faut dire qu'une certaine modernité est née sur ce champ de bataille. On a vu ce qu'il en a été pour les infirmières, évidemment, pour la mécanisation militaire aussi. On pourrait presque dire que la guerre moderne est née en Crimée.
Absolument, parce que l'utilisation des bateaux à vapeur, exactement, toute la modernité était là. Et ça, c'était un aspect aussi tout à fait essentiel. C'est pour ça qu'il faut revenir. La gestion diplomatique, vous voyez, la gestion technique, je dirais ce Torah culturel, et n'oubliez pas le fait qu'ils ont su équilibrer quand même les apports avec la Russie, ça a permis finalement après un virage inattendu, aussi une conséquence, une entente future, imaginez bien, tout le reste est venu de ça, une entente future entre la Russie, l'Angleterre qui a participé même à la guerre de Crimée.
Mais oui.
Et puis, finalement, il y avait les choses. Russes sont devenus à la mode avec les chemisiers à la Tolstoï, avec les œufs Fabergé. Les conséquences inattendues toujours de la guerre en Crimée.
Non seulement inattendues, mais on peut parler d'un paradoxe, puisqu'au départ, les Français et les Britanniques, volant au secours de l'Empire ottoman, s'attaquent à la Russie. Et finalement, vous nous dites, de cette guerre va naître lointainement la future triple entente, et en tout cas, dans un premier temps, une sorte d'alliance franco-russe, en fait.
Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de désespoir. Chaque tension diplomatique, même la guerre, peut donner la possibilité de sortir vers le haut. Et la diplomatie française, elle en sait quelque chose. Je conseille parfois de revenir à la guerre de Crimée à nos amis américains.
Alors ce que je disais pour commencer, à mon avis, tous ne la connaissent pas bien. Vous savez, l'histoire et les Américains, parfois ça peut faire deux.
Bien sûr, c'est pour ça que je me suis permis.
Au tout début de ce récit, je disais qu'il y avait bien une question religieuse. La façon dont la Russie se considère par rapport à la chrétienté, en quelque sorte. Est-ce que, à l'issue de la guerre, cette vision-là a été transformée aussi ?
Je vais vous dire, ça c'est, Dieu sait que j'ai donné ces derniers temps sur Poutine avec mon livre sur lui, ça nous rappelle la politique moderne de Poutine, parce que la Russie s'est placée comme un défenseur des chrétiens de l'Orient. Et c'est une grande tradition autrefois à la fois de la diplomatie française et de la diplomatie russe. Aujourd'hui, la Russie est à la première ligne. Poutine considère que l'islamisme modéré menace les chrétiens de l'Orient et ils se placent comme autrefois, juste suite à la guerre de la Crimée, pendant la guerre de Crimée, comme défenseurs des chrétiens de l'Orient.
Alors, un mot d'histoire russe et puis nous allons en venir à l'histoire même de la Crimée, essayer de comprendre quelles ont été les différentes phases de cette histoire et ce que le passé peut nous dire du présent, bien entendu, et peut-être, pourquoi pas, de l'avenir. Un mot juste de la Russie, vous nous avez dit que ce tsar avait votre tendresse, le tsar Alexandre II, il est celui de l'abolition du servage, etc.
Des formes de centralisation. Et quelle histoire d'amour, quand même, Katia, l'une des sublimes histoires.
Racontez-nous ça.
Ah ben attendez, vous connaissez quand il a rencontré Justine Écolière à 17 ans et elle deviendra une grande égérie politique. Katia, vous la connaissez tous et toutes, surtout grâce à Daniel Darieux et Romy Schneider, une grande dame devant l'éternité, célèbre Katia, qui a poussé ce tsar au pinacle, une grande égérie politique.
Alors, avant d'en venir donc à l'histoire de la Crimée, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu d'actualité. Dans un premier temps, là, j'aimerais qu'on dise à nos auditeurs où nous en sommes dans la situation
en Crimée. Aujourd'hui, la situation est sur le plan administratif. Vous savez, il faut quand même que les gens connaissent que la Crimée est restée sur l'Empire russe et puis sous l'Empire soviétique jusqu'à 1954. En 1954, il y avait un dirigeant qui est à la côte ici, au fait Khrouchtchev, mais en réalité, c'était un dirigeant très bizarre. Vous vous souvenez, avec le soulier aux Nations Unies, vous connaissez mes positions, je considère que tous les dirigeants de l'époque stalinienne, c'était les grands criminels, y compris évidemment Khrouchtchev, mais il est à la côte parce qu'on pense qu'il était marrant, mais aujourd'hui, il est en quelque sorte placé au centre du débat, puisqu'en 1954, on m'a raconté, après le déjeuner bien arrosé, il a décidé de transférer la Crimée, qui était administrativement au sein de la Russie, traditionnellement dans l'Empire russe, sous le coup administratif de l'Ukraine, cette fois-ci soviétique.
Est-ce qu'on peut parler en ce moment d'un processus d'apaisement en Ukraine, entre le président élu et le président Poutine ?
Je vais vous dire, j'aurais tellement voulu Dieu sait que j'étais, avec mon côté ukrainien, perturbé par ce qui s'est passé depuis des mois autour de l'Ukraine. J'ai pensé qu'il y aura une sorte de triomphe de l'idiotie même diplomatique. Mais d'un coup, quand vous souvenez, il y avait ces fêtes de débarquement
il y a quelques semaines.
Qui étaient vraiment l'événement majeur. La diplomatie française et la diplomatie allemande, ils ont joué le rôle des premiers violons tout à fait extraordinaires. Ils ont utilisé le mot de désescalade, ils ont dit pas de guerre civile là-bas en Ukraine et surtout pas d'élargissement de ce conflit, pas de guerre mondiale. Et vous avez vu tous ces images extraordinaires en Normandie quand Poutine a parlé à la fois avec le président américain et bien entendu surtout avec le président ukrainien qui était élu au suffrage universel il y a quelques jours. Hélas, la situation là-bas, c'est toujours dramatique. La guerre civile continue, mais au moins ils se téléphonent. Et je reste vraiment un grand partisan de dialogue. Je suis certain qu'on peut sortir par la diplomatie, par le haut de cette situation ô combien dramatique.
Alors évidemment, d'un côté, il y a toute la pression historique et la question de l'intégrité territoriale, la question géopolitique évidente, et on va comprendre pourquoi par rapport à la Russie. Et puis d'un autre côté, il y a ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il y a cette volonté populaire qui d'ailleurs pose problème en Crimée. On va y venir.
Évidemment, pour vous dire sérieusement, avec mon côté ukrainien et mon côté russe, il y a une contradiction entre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui était quand même soutenue internationalement et confirmée autrefois par la Russie, et le droit qui était propagé autrefois surtout par la France, d'ailleurs, le droit des peuples à l'autodétermination, parce que la majorité de Crimée est russophone. Et évidemment, il y avait le référendum, je passe les circonstances, mais quand même, le fait est là que la majorité de la population de Crimée reste russophone et attachée à cette idée de l'appartenance de Crimée à la Russie.
Alors justement, d'où vient-elle cette appartenance? Ça, c'est toute l'histoire de la Crimée. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Sur Europe 1, nouvel extrait du concerto pour violon en ré majeur. Vous nous parlez de la Crimée aujourd'hui, Franck Ferrand, dans Au cœur de l'histoire, avec votre invité Vladimir Fedorovski, écrivain, ancien diplomate. Son dernier livre s'appelle Poutine, l'itinéraire secret, aux éditions du Rocher.
Vladimir Fedorovski, auteur aux éditions du Rocher, évidemment, de l'itinéraire secret de Poutine. Poutine, l'itinéraire secret, vous revenez sur le personnage. Quand je dis que vous revenez à tous les sens du terme. D'ailleurs, Vladimir Fedorovski, c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais il y a, une approche un peu plus nuancée que celle que vous avez pu avoir dans le passé.
Je vais vous dire, parce que j'étais tellement inquiet de la situation que j'ai proposé les clés pour comprendre ce personnage. En réalité, il y a 5 Poutines. Poutine James Bond, vous allez voir comment elle est formée. Poutine sportif de son enfance. Poutine de l'époque de Magou et d'Eltsine. Et Poutine aujourd'hui, le tsar. Tout ça, c'est Poutine. C'est les clés qui m'ont paru importantes. C'est un personnage Poutine incontournable de la politique mondiale, et j'ai pensé qu'on simplifie parfois les choses. Quand Madame Clinton, elle le compare avec Hitler, c'est vraiment quelque chose qui me gêne, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je vous donne les éléments de la réflexion. C'est une longue enquête sur Poutine.
La Crimée. Cette Crimée, c'est d'abord une péninsule. Il faut bien voir de quoi il s'agit. Un territoire très important parce qu'il sert un peu de verrou maritime. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ça, vous visez juste sur le plan géopolitique, c'est un verrou qui est vital pour la Russie. La Russie, historiquement, est tentée par l'accès aux mers chaudes, ils disent les Russes, et évidemment, ça s'est
à la Méditerranée,
aux mers chaudes. Mais le grand port, c'est Sébastopol, le principal port du péninsule. Historiquement, une longue histoire, encore l'Antiquité.
Alors on va y venir à l'Antiquité. Autrefois, on appelait la Crimée la Tauride, en fait.
La Tauride, c'est toujours encore un clin d'œil, parce que celui qui a vraiment transformé la Crimée, il s'appelait le prince de Tauride. C'était le prince sérénissime Potiomkine. Quelle belle histoire d'amour, encore une fois.
Avec Catherine.
Avec Catherine, l'homme de la vie de Catherine II, qui a transformé la Crimée d'une manière absolument extraordinaire.
Alors, avant Catherine, cette Crimée, elle est occupée par les Tatars.
Bien sûr. L'allié des empires ottomans, encore déjà la controverse. Comme chez Poutine aujourd'hui, il y a toujours les controverses avec l'islamisme progressiste qu'il considère comme une sorte de vraiment fléau des temps modernes, en tout cas une menace pour la paix. Et déjà,
les Tatars vont se convertir à l'islam, en fait. Hein.
Les Tatars, qui sont d'origine mongole, en fait, qui vont se convertir à l'islam. Historiquement, ils seront alliés de l'Empire ottoman et ils vont garder la Crimée jusqu'à 1783.
Ça dure 300 ans. De 1475 à 1783, on est sous protectorat ottoman. Donc là, les Russes, pour l'instant, ne sont pas du tout présents. C'est Catherine qui va récupérer.
Catherine qui va récupérer. Ils ont guerroyé avec l'Empire ottoman. Vous vous souvenez déjà la prise d'Azov par Pierre le Grand. Mais quand même, le pas décisif et un déclic que j'aime décrire, c'est cette histoire d'amour foudroyante entre Catherine II et Potiomkine. Elle disait, les vraies histoires d'amour, c'est toujours après 40 ans, un jour, je vais faire un livre avec ce titre parce que ça, c'est un déclic qui nous réconforte tous. Mais je dois vous dire, très franchement, que Potiomkine, c'était pas seulement un grand coup, comme on dit aujourd'hui. C'était aussi un homme extraordinaire. C'était le chef de guerre, l'administrateur extraordinaire.
Un brillant esprit.
Et brillant esprit, évidemment, un diplomate aussi. Vous comprenez? Il a transformé, le fondateur, on a dit, il a fondé toutes ces villes. Il a transformé, quand je regarde
Odessa, par exemple.
New York avant l'heure aussi, qu'il a transformé, coexistence entre les différentes communautés. Tout ça, c'est l'esprit de Potiomkine. Et évidemment, ça s'est entré dans l'histoire, parce qu'il y avait aussi la transformation géopolitique, la transformation économique, mais la transformation technique carrément de la Crimée, c'était vraiment l'agriculture ancestrale sous les Tartares, et c'est devenu quand même un brin de modernité sous Potiomkine.
Alors on a parlé de la guerre de Crimée. À l'issue de la guerre de Crimée, avec le traité de Paris, on ferme les détroits. Ça, il faut bien en avoir conscience. Hein. Donc ça donne à la Crimée une dimension encore particulière. On est toujours sous domination russe en Crimée,
on
évidemment.
La domination russe est sauvegardée. Mais après, les Russes, ils ont fait ouvrir leur passage avec l'accord à Montreux. Et finalement, ça a permis après d'atténuer ça. Mais ça, c'est entré. C'est pour ça que vous avez bien fait de revenir à cette affaire de la Crimée, parce que ça peut rappeler de quelle manière on peut gérer la crise. C'était la crise majeure, et à l'époque, il n'y avait pas des armes atomiques, et on a évité quand même le conflit généralisé.
Alors, comment est-ce que la révolution de 1917 va gérer la Crimée? Quel est le point de vue des bolcheviks sur
Je vais vous dire, les bolcheviks, c'est les gens qui sont responsables, dans une grande mesure, de cette affaire ukrainien d'aujourd'hui, puisqu'il découpait les frontières comme il voulait.
Eh oui.
Il transférait les populations, il y avait...
Ah oui, on prenait pas tellement de soins, là.
Absolument, ça a commencé par Lénine, c'était approfondi par Staline, les régions qui étaient sous l'Empire. Vous connaissez l'histoire de l'Ukraine occidentale, c'était traditionnellement, pas une grande erreur de Staline, c'était traditionnellement polonaise et autrement sous l'Empire austro-hongrois, l'Ukraine occidentale vomit les Russes. Et Staline, il a transféré ça à l'Ukraine. Ça crée déjà les tensions. Et sous les bolcheviks, ils ont transféré, souvent administrativement, comme c'était le cas, la population, par exemple, ces contrées qui entrent en révolte aujourd'hui, qui est traditionnellement pro-russe et qui parle russe, ça s'appelait Novorossiya sous Catherine II, ils ont transféré...
Novorossiya, c'est-à-dire la Nouvelle-Russie.
Nouvelle-Russie, absolument. C'est l'Ukraine, en fait, orientale. Ils ont transféré ça administrativement à l'Ukraine. Et c'était une histoire dramatique pour tout le monde. Avec mon côté ukrainien, quand même, je peux rappeler cette décision de vraiment affamer l'Ukraine, y compris d'ailleurs la Crimée. Il faut dire, quand j'ai vu les documents récemment dans les décisions de Staline, il dit qu'il faut utiliser la famine comme une arme. Au moins 6 millions de gens ont été affamés. Et il cite Lénine, la famine est socialement bénéfique. Vous comprenez? C'est des grands dangos. Ouais. Il ne faut pas oublier Staline, Trotsky et la compagnie.
Alors,
et
Staline, après, Staline meurt en 1953.
Mais si on permettait, entre ça, il y avait un autre épisode qui concernait les Tartares. Parce que les Tartares de Crimée, ils ont été quand même persécutés, particulièrement par Staline, parce que les Tartares anti-russes, traditionnellement, ils ont vraiment parmi eux, il y avait, c'est pas toute la population, parce qu'il y avait des gens
déportés, en fait.
Déportés.
Hein.
Massivement en Ouzbékistan, à la limite, où il fait chaud, mais aussi en Sibérie, la moitié de la population est meurt pour une simple raison qu'ils ont été accusés. En fait, les chefs tartares, ils ont voulu donner le cheval blanc à Hitler qui devait entrer en Kremlin. Si Hitler entrait en Kremlin, Staline, quand il a eu l'information d'un espion, s'il vous plaît, sur ça, il était tellement enflammé qu'il a déporter les femmes et les enfants. Et finalement, c'est vraiment un épisode terrible du stalinisme, parce que beaucoup de gens sont morts. Et finalement, réhabilitation de ces gens-là, c'est même Khrouchtchev. C'est seulement à mon époque, avec Gorbatchev.
Oui, c'est ça.
Et c'était récemment confirmé, il faut dire, par Poutine, parce que Poutine, il essaie quand même d'aménager les rapports. Ce n'est pas une chose facile, mais d'aménager les rapports avec des Tartares. Et puis, vous avez raison, l'épisode suivant, c'est 54.
C'est le cadeau.
C'est le cadeau.
Khrouchtchev qui donne.
Khrouchtchev, je vais vous dire.
Mais
cadeau
pourquoi
pour tout le monde. Tout le monde dit que c'est pour 300 ans de rattachement de réunion de l'Ukraine entre l'Ukraine ancestrale et la Russie. Je vais vous dire, en réalité, cet épisode, c'est beaucoup plus dramatique. Peu de gens savent, je peux vous donner les épisodes. Khrouchtchev, c'est un grand criminel. Il tuait énormément de gens puisqu'il dirigeait l'Ukraine. C'était vice-consul du Kremlin en Ukraine. Il voulait récupérer le dossier sur son rôle pendant les terreurs staliniens. Et dans la foulée de ce cadeau, il a récupéré et anéanti de ce dossier. Vous comprenez, on revient à cette mentalité vraiment des grands criminels, au-delà de ça. Mais cela dit, on reproche beaucoup à Khrouchtchev tout ça. Et après, l'épisode de mon époque. N'oublions pas.
C'est-à-dire l'époque de Mikhail Gorbatchev.
Oui, la fin de l'URSS, 91, décembre 91, et ça, j'ai les témoins directs, on m'a raconté que le dossier de Crimée était dans la poche d'Eltsine. La fin de l'URSS, on devait reconnaître l'indépendance de l'Ukraine et proclamer la fin de l'URSS, et dans la foulée, surtout éliminer Gorbatchev du pouvoir. Et on m'a dit que Eltsine, comme il est porté sur l'alcool, et tous les dirigeants, c'était ukrainiens et voire belarusses, que sans faire entre guillemets, Eltsine, il a oublié de poser ce problème pendant cette fameuse rencontre en Belovezhskaya Pusha, début décembre 91. Les deux personnages comme ça sont aujourd'hui placés au centre de débat public, parce que la Russie, que je cite ça dans ce livre aujourd'hui, ils ont créé une notion très particulière. La majorité de la Crimée, Crimène, ils disent, les Russes. Parce que Poutine, dans son action en Crimée, il est soutenu par 91% de la population. Lui, il est en quelque sorte porté au pinacle autour de ça. Mais il y a deux personnages qui sont quasi-diabolisés, à mon sens d'ailleurs à tort dans le cas d'Eltsine. C'est Eltsine qui a oublié, soi-disant, de poser ce problème au moment de la fin de l'URSS en 91. Et Khrouchtchev, avec ce cadeau, disons, empoisonné pour les générations futur quand il a transmis administrativement la Crimée.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire que cette Crimée, qui a été longtemps ottomane, puis qui pendant trois siècles a été une terre russe, n'a rien à voir avec l'Ukraine? Parce que légalement, du point de vue du droit international, c'est bien une partie du territoire ukrainien.
Bien sûr. Je vous ai dit qu'il y a cette contradiction entre les deux principes internationaux, le droit de peuple à l'autodétermination et l'inviolabilité des frontières, l'unité de l'Ukraine. Dans la position de Poutine, soyons très honnêtes, et je le dis volontiers dans ce livre, il y a un pépin, parce qu'au moment de 1994, Eltsine, il a reconnu justement l'unité de l'Ukraine et la souveraineté de l'Ukraine dans les frontières. Comme ça, c'est pas un accord, mais ça s'appelle le mémorandum de Budapest de 1994, qui était confirmé d'ailleurs par les Américains et par les Britanniques. Ça, c'est une faiblesse, mais autour de ça, vous comprenez, on développe, il y a un grand pépin d'une manière générale autour de l'Ukraine. Je pense que nous étions à la hauteur au moment de la fin du communisme. On a sorti du communisme sans effusion du sang, et l'époque post-communiste n'était pas vraiment à la hauteur, puisque mes amis américains, ils ont inventé une théorie de cordon sanitaire autour de la Russie, et je pense que cette politique qui visait à l'affaiblissement de la Russie, c'est une humiliation de la Russie. Soyons très clairs, c'est aussi à l'origine de la crise actuelle.
Où l'on revient finalement à la guerre de Crimée et à la question sous-jacente de l'équilibre entre toutes ces puissances autour de la Crimée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire régionale, il s'agit bien évidemment d'une affaire mondiale. Mais ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Je rappelle le titre du livre qui est actuellement en librairie sous votre plume, Poutine, l'itinéraire secret. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Laurent. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et il aimerait savoir, Laurent, comment est-ce qu'on datait les événements avant la naissance de Jésus-Christ?
Oui, c'est vrai que le calendrier chrétien est devenu quasiment universel aujourd'hui. Et pour nous, en tout cas en Occident, c'est la référence permanente. Alors, on peut se poser la question de la façon dont on datait les événements avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, ça dépendait de chaque civilisation, évidemment. Par exemple, les Égyptiens, à chaque nouveau règne, entamaient un nouveau décompte. Donc, on disait la huitième année du règne de Thoutmès II, par exemple. Il fallait remettre, si vous voulez, les compteurs à zéro à chaque fois. Évidemment, la civilisation la plus proche de nous, celle de Rome, comptait à partir de la naissance de Rome. Ça, c'est un événement qui a lieu, en tout cas historiquement, officiellement, en 753 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire, et moi je connais quelques profs de latin qui continuent de faire ça, qu'aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes en 2767 du calendrier romain, par définition. Il va falloir attendre longtemps, somme toute. Il va falloir attendre le 6e siècle, en 532 après Jésus-Christ, pour que Denis le Petit, qui est un moine italien, imagine ce nouveau calendrier qui va être le calendrier chrétien. Donc on va pouvoir parler, bien sûr, précisément de 532 après Jésus-Christ. On dit aussi AD, c'est-à-dire Anno Domini, dans l'année du Seigneur. C'est d'ailleurs la façon dont on abrège de manière internationale. Il va falloir attendre très tard, entre 680 et même 735, pour que ce calendrier soit définitivement adopté, sous l'influence notamment de Bède le Vénérable, un moine anglo-saxon extrêmement important et sur lequel j'aurai peut-être l'occasion un jour de revenir et de m'apesantir un peu. Toujours est-il qu'il faudrait parler aussi de tous les autres calendriers, bien entendu. Comment est-ce qu'on date un événement en Chine? Comment est-ce qu'on date un événement chez les Hébreux et dans la population juive depuis lors, etc. Il faut bien être conscient que, ou dans le calendrier de l'Égypte pour les musulmans, évidemment, il faut bien être conscient que cette date du calendrier chrétien qui aujourd'hui domine sur toutes les autres n'est pas la seule, loin de là.